qui impactent en fait les grandes variables économiques du pays d'accueil. On aurait pu prendre une autre perspective, qui est typiquement quel est l'effet en fait de l'émigration sur le pays de départ. D'accord, le fait qu'il y ait des jeunes qui partent, qui quittent leur pays, ça peut avoir un impact aussi. C'est une autre perspective, c'est très intéressant. On pourrait, comme le font les sociologues, les anthropologues, suivre les immigrés ou les personnes migrantes dans leur parcours migratoire. C'est très intéressant aussi. D'accord. Donc là, on va se mettre sur le sujet qui est finalement le plus politique, hein, le plus politique dans les, notamment dans les pays riches, hein, qui sont ceux qui reçoivent une grande partie de la migration, qui est leur effet sur la société, mais par le prisme de l'économie. D'accord. Alors, comment est-ce qu'on peut une première façon de rentrer dans le sujet, c'est de regarder ce qui est visible. Alors, j'espère que ça marche. Voilà. Ça, c'est l'équipe de France titulaire en 2018, donc celle qui va gagner. Donc voilà, on avait gagné, c'était bien. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe si je retire ceux qui sont immigrés? Les immigrés, un immigré, pour être sûr qu'on le sache, c'est quelqu'un qui est né étranger à l'étranger. D'accord ? Hein, c'est important, la définition est importante. Je suis né étranger à l'étranger. Si je nais, par exemple, de parents français à l'étranger, je ne suis pas un immigré. D'accord ? Si je nais en France, je ne suis pas un immigré non plus. D'accord ? Donc, je peux retirer les immigrés et puis je peux retirer les fils d'immigrés, ceux qui ont au moins un immigré comme parent. Et voilà, donc il en reste trois. D'accord ? Donc, typiquement, l'équipe de France gagnante est complètement décimée. Donc là, c'est typiquement une idée que sans l'immigration ou sans le recours à l'immigration, on n'aurait pas gagné, on n'aurait pas eu cette merveilleuse équipe. Ça c'est une façon de voir qui est évidemment très biaisée, très particulière, mais qu'on va retrouver lorsqu'on parle, vous savez, par exemple, de ces immigrés qui ont fait la France. D'accord, on insiste beaucoup sur ses talents, sur ses superstars. Donc, on les retrouve évidemment dans le monde des arts, dans le monde de la culture. D'accord, les grands moments. Pensez aux grands mécènes des autres temps, dont le but était de faire venir en fait les artistes de tous les pays. On a l'idée qu'il y a un pays où la culture s'exprime, où la culture est foisonnante. C'est un pays qui va accueillir justement des artistes, qui va accueillir des grands artistes. On a exactement la même chose pour la science. Alors en France, on a moins d'exemples. On a toujours Marie Curie, donc on sert et on resserre de Marie Curie qui était arrivée de Pologne. On n'arrive pas à retenir son nom polonais, mais voilà, les Polonais pour eux ça compte beaucoup, etc. Mais nous on se rappelle de Marie Curie, qui arrive à 22 ans, qui s'inscrit à la Sorbonne et puis qui va avoir deux prix Nobel et qui va même engendrer une lignée de personnes incroyablement importantes dans la science française. Les universités sont au cœur en fait de ce mouvement d'attraction des talents, d'attraction des cerveaux. Et donc c'est encore un exemple où on se dit que l'immigration c'est vraiment pas mal parce que ça fait venir des grands scientifiques. Et si on a des grands scientifiques, on va faire des découvertes et on va aller de l'avant. D'accord. Pendant le Covid, c'était bien un étranger qui, en Allemagne, a trouvé un des vaccins contre le Covid. D'accord. Donc, c'est des exemples comme ça qui sont très, très souvent mis en avant. Il y a une économie de ce phénomène-là qui s'appelle l'économie des superstars, avec des gens qui travaillent là-dessus et sur leur très forte mobilité et sur les déterminants de leur mobilité. Je dirais que ça, c'est le discours qui est, je dirais, positif vis-à-vis de l'immigration. Et je dirais qu'il a un peu conquis tout le monde. Mais néanmoins, lui-même, il n'est pas du tout dominateur, ce discours. En tout cas, la population ne perçoit pas cet argument, ce bénéfice que l'on peut avoir à des superstars étrangères comme étant vrai pour l'ensemble des personnes qui potentiellement peuvent migrer. Donc je veux faire ma présentation en trois temps. Je veux partir du phénomène politique, du discours politique qui est autour des immigrés. Donc moi, je suis pas un spécialiste de sciences politiques, donc je veux dire, je veux partir un petit peu de ce qu'on voit, ce que vous voyez, etc., lorsqu'on voit la division politique en France, mais aussi dans beaucoup de pays européens et en Amérique aussi. C'est un élément qui est très important dans le débat politique, c'est ce qui divise la classe politique et qui divise les électeurs. Et on va voir comment est-ce que l'argument économique joue dans ce débat-là. Okay. Ensuite, on va faire un petit peu d'économie, c'est-à-dire que je vais vous expliquer comment est-ce que les économistes, eux, essayent d'évaluer le bénéfice ou le non-bénéfice de la migration. Parce que c'est un sujet d'écho de base. Je veux dire, un économiste, on peut lui demander quel est l'effet des taux d'intérêt sur le marché immobilier. Voilà, ça c'est un sujet. Mais on peut tout à fait lui demander quels sont les effets économiques de la migration. Et d'ailleurs, il y a deux ans, c'était le sujet pour l'entrée à l'ENA, quoi, à l'INSP maintenant. Voilà, donc c'est des sujets qui intéressent. Je traite le cas des finances publiques. Et puis je veux revenir, et je veux qu'on revienne ensemble sur la question du narratif et du discours que l'on peut avoir autour de la migration et autour des effets économiques de la migration. Alors, un pivot du débat politique. Alors déjà, c'est un sujet sensible, ça c'est évident, je n'ai pas vraiment besoin de vous le dire. Ce que je souhaite dire en premier lieu, c'est que moi, ici, et ça c'est assez important, et c'est une espèce de ligne de crête, donc je voudrais que les choses soient assez claires. Je ne suis pas là pour vous donner mon opinion politique.
D'accord.
Pas du tout. Et loin de là. Et on ne va pas être ici, même lorsqu'on va discuter ensemble, pour discuter politique.
D'accord.
Il y a des opinions politiques qui s'expriment dans le cadre démocratique, avec des positions qui sont contre la migration, des positions qui sont pour la migration, et puis souvent, en fait, pas de position du tout, ou des gens qui ne veulent pas en parler. Donc on pourrait dire, il y a à peu près le spectre qui est là. Je les respecte, je suis fondamentalement démocrate, je respecte non seulement les votants, et puis les personnes qui ont été élues par les électeurs. Et donc moi, je ne suis pas là pour dire y en a un qui a tort, il y en a un qui a raison ou quoi.
D'accord.
Ce que je vais essayer de développer comme stratégie avec vous, c'est de se dire dans ce monde très polarisé sur ces questions de migration, comment est-ce que le scientifique, comment est-ce que l'expert peut aider à faire progresser les choses.
D'accord.
Et je pense que ça, c'est assez important. Plus tard, vous aurez souvent, justement, à éclairer le débat, éclairer les décideurs dans un monde où les opinions sont contradictoires. Là, on est dans une situation très particulière, qui est l'immigration, qui génère beaucoup de tensions. Mais on peut le prendre aussi comme un cas d'école, justement, sur quel est le rôle, éventuellement, de l'expertise. Et alors, du coup, la façon de faire, c'est que je vais me restreindre à ce que je suis. Je ne fais pas une analyse de la sociologie politique et de la formation des opinions politiques. Mais je vais revenir sur la question de l'enjeu éco. Alors, il se décline différemment. Il y a le chômage.
D'accord.
Première question assez nette, est-ce que le fait de faire venir des immigrés, des étrangers chez nous, est-ce que ça va accroître notre chômage?
D'accord.
Assez lié, il y a est-ce que ça fait baisser les salaires?
D'accord.
Est-ce que les étrangers prennent le travail des nationaux. Est-ce qu'ils font, ils génèrent une compétition qui va faire baisser les salaires. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Il y a toute la dimension pauvreté qui est très importante. Est-ce que finalement, est-ce qu'on va avoir plus de pauvres lorsqu'on accueille des immigrés, sans forcément compter les immigrés parmi les pauvres, mais parmi ceux qui sont nés sur place, est-ce qu'il y aura plus de pauvreté? Ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup. La question des finances publiques, c'est-à-dire, est-ce qu'on, dans les termes du débat un petit peu politique, un peu bas de gamme, c'est les immigrés qui prennent les allocations, voilà, ils prennent les allocations et puis ils contribuent pas aux finances publiques, donc ils dégradent en fait le solde des finances publiques. Et puis plus généralement la croissance économique, c'est-à-dire est-ce que les immigrés globalement nous rendent plus pauvres. Donc ça c'est vraiment les sujets. Alors dans le débat politique traditionnellement, lui s'est saisi de la question des effets économiques de l'immigration. Donc je vous ai mis une affiche, qui est une affiche du Front National, qui a une très longue histoire. En fait, elle remonte au 23 mars 1933. Donc à un moment assez dur, après la crise de 1929, des très fortes tensions, etc. Il y a un député, donc, tout le monde a oublié le nom, il s'appelait Louis Fourest, qui monte à la Chambre. Et il dit, très franchement, en France, on a 400 000 chômeurs. Bon, à l'époque, voilà, il y avait 400 000 chômeurs. Et il y a 1 200 000 ouvriers étrangers. Vous voyez bien que si on renvoyait les ouvriers étrangers chez eux, nos problèmes de chômage seraient résolus. Alors lui, il a disparu des radars. Plus personne ne se rappelle de lui, et plus personne même ne se rappelle de son intervention. Mais la puissance rhétorique de cette phrase simple, c'est-à-dire je mets en parallèle un nombre d'étrangers et puis un nombre de chômeurs, elle est très forte. Ceux d'entre vous qui font du marketing ou qui font qui font du marketing, qui font de la publicité, je vous souhaite un jour de trouver des slogans qui soient aussi forts. Et lorsque je vous présente 1 million de chômeurs, c'est 1 million d'immigrés de trop, d'accord ? Cette rhétorique a la force de la simplicité. Et parce qu'elle est simple, elle convainc. D'accord ? Donc là, c'est les législatives de 1978, c'est le Front National qui le met en place. Au début, ils n'étaient pas trop sur les histoires économiques. Et puis, le chômage commence à être un vrai problème. Vous avez appris ça, je suis sûr, dans vos cours d'histoire éco, dans ces années 70. Et donc, ils ont une intuition à un moment et ils se disent, on va revenir sur cette affaire-là. Et ils placardent cette affiche un peu partout en France. 2 ans après, pour les présidentielles, ils reprennent la même affiche. Vous pouvez voir sur Internet, vous allez retrouver exactement la même affiche. Il n'y a que les chiffres qui ont changé. Ils ont mis 2 millions de chômeurs, c'est 2 millions d'émigrés en trop. La France et les Français d'abord. D'accord ? Ils ont gardé le même truc. Ils ont dit, on va passer de 1 million à 2 millions. 2 ans après, ils vont reprendre encore la même affiche, mettre 3 millions de chômeurs, c'est 3 millions d'émigrés de trop. D'accord ? Ils n'ont pas changé. Ils n'ont pas bougé du tout. Ça a fonctionné. Et on reviendra un peu, mais moi, je dirais qu'ils ont presque gagné. D'accord ? Ils ont convaincu. Ils ont convaincu parce qu'ils ont convaincu. Ils étaient minoritaires sur le plan parlementaire, en termes de représentation parlementaire. Donc ils ont grossi aussi. Mais ils ont aussi convaincu un spectre de la population beaucoup plus large. Et l'idée que finalement d'avoir de l'immigration, ça nous appauvrit ou ça nous crée des problèmes économiques, va être même repris lors de la campagne de 2012. François Hollande ne dit pas différemment. Donc il ne dit pas de mettre les étrangers dehors, mais il dit, étant donné la situation économique de notre pays, on ne peut pas se permettre d'avoir une politique d'immigration de travail. D'accord. Hein, donc, évidemment, on n'est pas du tout dans le même registre de violence, hein, de vouloir mettre les gens dehors, mais on est dans un registre quand même d'un coût économique implicite de la migration. Et quand donc, hein, je veux dire, c'est le candidat socialiste, hein, quand même, vous dit, ben non, on va arrêter la migration. Et puis, mais vous allez avoir des gens, je sais pas, voilà, ma mère, par exemple, elle me dit, bon, ben, Hippolyte, tout ça, c'est très bien, mais il y a beaucoup de pauvres en France. On ne peut pas se permettre d'avoir des immigrés. D'accord ? Et en n'étant pas du tout, ne votant pas du tout pour ces gens-là. D'accord. Et ce que je veux dire, c'est que beaucoup de gens ont cette rhétorique dans la tête. Même il y a des groupes de gauche qui promeuvent l'immigration, mais ils vous disent, mais on le fait par humanisme, d'accord, hein, par humanité. Et l'économie, on s'en fiche, mettons-la de côté, elle compte pas. Mais ce faisant, ils adhèrent au discours de l'impact négatif de la migration. Donc, des arguments qui sont simples, qui ont une force rhétorique très forte et qui s'appuient, et si vous travaillez un petit peu sur la rhétorique populiste pendant vos années, vous allez voir qu'ils s'appuient sur ce qu'ils vont appeler, eux, le bon sens. Hein, et l'administration Trump est beaucoup autour de cette idée de « nous, on a un raisonnement de bon sens ». D'accord ? C'est-à-dire notre intuition. Hein, et très souvent, en fait, le rôle du scientifique, c'est d'aller au-delà de ce qui semble être une proposition de bon sens. Et c'est ça que je vous invite à faire. Une chose, et après on quitte la politique, mais il y a un enjeu qui est complémentaire et qui est important, c'est l'enjeu culturel. Alors, il faut bien voir que dans le mouvement des idées, dans le mouvement des idées politiques, hein, à mesure que cette idée que l'immigration était un coût pour le pays, c'était développé, c'était répandu, la frange la plus extrême, hein, de la droite la plus extrême, elle, finalement, a changé de discours, a renouvelé son discours, et a porté son discours beaucoup plus sur le danger civilisationnel, sur le problème, je vais dire, d'un point de vue culturel de l'immigration. D'accord ? Jouant sur le fait, oui, mais l'immigration, actuellement, nous pose un problème parce qu'ils n'ont pas la même culture. Et, donc ça va être très important. Hein, ils ne vont pas du tout renoncer à l'argument économique, mais ils vont aller sur le sujet culturel. Alors, quand on regarde un petit peu l'histoire de l'immigration, quand on regarde l'histoire des discours, en fait, anti-migrants, on s'aperçoit que c'est pas si nouveau que ça. D'accord. Et on a toujours reproché, en fait, à l'immigré, à l'étranger, de créer un risque civilisationnel, culturel, pour le pays d'accueil. Je vais pas faire 50 exemples, mais je vais faire un exemple. L'église polonaise à Paris, okay, à côté de la Madeleine, il y a une église polonaise. Bon, les Polonais, ils sont catholiques. Voilà, ils sont catholiques, ils arrivaient dans un pays catholique. Je veux dire, normalement, tout aurait dû bien se passer. Ben non. Non, il y a une église polonaise parce que les catholiques en France ne voulaient pas être priés à côté des catholiques polonais. Ils étaient perçus comme étant, en ayant des rites un petit peu bizarres, etc., catholiques, mais je ne sais pas quoi, ils priaient debout, etc., etc. D'accord ? Ça, c'est une traduction que, systématiquement, en fait, hein, on va mettre un accent sur les différences et sur le risque qui est associé à ces personnes qui pensent différemment. Alors, là où entre guillemets, le truc se complique, le sujet se complique un petit peu, c'est que lorsqu'on commence à faire de l'économie et qu'on veut faire un peu d'économie de base, si je puis dire, eh ben ça va aller dans le même sens que ces éléments rhétoriques hyper simplistes. Et donc, les personnes qui pensent que l'immigration a un effet négatif sur l'économie, je dirais, en travaillant un tout petit peu, ils vont trouver des justifications. Alors, je vais vous les lister, parce que je sais que vous avez fait de l'économie, et donc on va les revoir ensemble. Alors, premier, c'est Maurice Allais. Alors, Maurice Allais, c'est un des... Bon, alors maintenant, il y en a eu deux de plus, mais pendant longtemps, c'était le seul prix Nobel qu'on avait eu en France en économie, donc on était quand même assez fiers. Et lui-même, il dit un truc un peu simple. Il dit, bah, regardez, les immigrés, en moyenne, ils ont des salaires plus faibles que les nationaux. D'accord ? Parce qu'ils sont sur des jobs moins bien payés, ils sont sur des tâches moins qualifiées, etc. Donc, plus il y a d'immigrés, plus le taux de salaire moyen baisse. Hein ? Ce que les économistes appellent, et ce que vous comprenez comme étant un effet de composition, eh ben on se dit, ben, si les immigrés ont des salaires plus bas, s'il y a plus d'immigrés, ça baisse le salaire moyen. D'accord ? Premier élément, qu'on va retrouver, en fait, dit différemment, mais très souvent, dans le débat. Le deuxième, c'est le marché du travail, d'accord, qui a été longtemps en fait le sujet associé à l'immigration, hein, pour plein de raisons, parce qu'une partie de la migration au départ, une grosse partie de la migration traditionnelle, historique, c'est une migration de travail, et parce que, alors il y a un peu de sociologie des sciences, mais en plus, les économistes qui les premiers se sont intéressés à l'immigration, c'était des économistes du travail. Donc, ils ont regardé que la partie. Hein. Bon, c'est pas intéressant, mais c'est pas grave. Alors, quand vous avez un marché, et ça, vous l'avez appris, vous pouvez. Alors, moi, j'aime pas trop hein, ça, mais c'est comme ça que les gens raisonnent, d'accord ? Et c'est extrêmement puissant. Donc, vous allez. Quand un économiste, il a créé deux concepts hein, qui sont très importants, qui sont ces courbes d'offres et ces courbes de demande. D'accord ? Donc vous représentez ici en abscisse des quantités, donc c'est par exemple des quantités de travail sur un marché du travail, et en ordonnée le prix qui est associé à l'équilibre entre l'offre et la demande, et ici c'est le salaire. D'accord ? Qu'est-ce que c'est ? Donc, il y a l'offre de travail, la quantité de gens qui travaillent, d'accord, qui augmente avec le salaire, et la demande de travail, donc celle qui est fournie par les entreprises, qui diminue avec le salaire. D'accord ? On est sur l'économie vraiment de base. Vous avez un salaire d'équilibre qui est au moment où la courbe d'offre et la courbe de demande se rencontrent. Qu'est-ce que c'est qu'un choc migratoire ? Qu'est-ce que c'est qu'un afflux d'immigrés ? Ben, c'est l'offre qui augmente. Et donc, vous avez un nouvel équilibre, les salaires sont plus bas. D'accord ? Et vous pouvez vous représenter ça, je veux dire, dans un petit village, je sais pas quoi, il y a un électricien, un machin, un boulanger. Bah, s'il arrive un nouvel électricien, un nouveau boulanger, bah, ça va leur faire de la concurrence, ça va leur baisser leur truc. Donc, c'est l'aspect marché. Si jamais les salaires sont rigides, si vous avez un salaire minimum, et ben dans ce cas, ça va vous faire du travail, du chômage, pardon. OK ? Vous maintenez votre truc. Donc, si je prends l'analyse économique, je dirais, de base, la plus simple, mais celle qu'on enseigne, en fait, et celle que les gens connaissent, celle qui est aussi sortie de l'université hein, ou des écoles, hein, sortie des centres de recherche, celle que tout le monde connaît, ben, elle vous dit, ben, non, ben, l'immigration, franchement, c'est pas super. Sur les finances publiques, vous avez quelque chose qui s'appelle l'effet d'attraction de l'État-providence. Bon, on a un peu du mal à le traduire. C'est the welfare magnet effect en anglais. Et l'idée que, en fait, la migration, quoi, la décision de migrer, se fait en comparant la situation que vous avez dans le pays d'origine. Et la situation dans le pays d'arrivée. Si vous améliorez votre situation, vous allez être incité à migrer. Et si cette amélioration de situation est supérieure au coût de la migration, que ce soit un coût financier ou un coût psychologique ou quoi et quoi, eh ben vous allez migrer. Du coup, on se dit que si on a un système social généreux, l'incitation à migrer est plus grande. Et donc, ça attire, ça fait venir les immigrés. D'accord ? S'ils viennent pour cette raison d'obtenir des allocations, des bénéfices, etc., du système d'État-providence, eh bien, dans ce cas, ça va être mis en concurrence avec les natifs, hein, ceux qui sont nés sur place, Et ça, ça va réduire les allocations qui pourront être distribuées aux pauvres de chez nous.
D'accord.
Donc là encore, l'économie de base, elle vous dit, franchement, c'est pas fantastique. La croissance économique. Je ne sais pas si vous avez vu le modèle de Solow. Vous avez dû voir sûrement le modèle. Non, ils ne l'ont pas vu. Bon, ça dépend. Bon, alors, ceux qui l'ont vu, c'est très bien, et les autres aussi. Donc, c'est le modèle de base, c'est la représentation de base que l'on peut avoir de la croissance économique. Hein? Cette croissance, elle se fait à partir d'une quantité de travail et puis d'une quantité de capital. D'accord ? Donc, il faut des hommes, des femmes, des ouvriers, des ouvrières d'un côté, et puis des machines. Pour une quantité de machines données que vous avez, si vous augmentez le nombre de travailleurs, de travailleuses, vous allez avoir une diminution du rendement.
D'accord.
Donc ça, c'est un effet immédiatement négatif. La plupart des économistes, hein, lorsqu'ils raisonnent, sans avoir forcément vraiment réfléchi à la question, lorsqu'ils se posent la question de quel va être l'effet de la migration, ils se disent, j'ai le modèle de Solow en tête, la migration, c'est un accroissement de population, et ça, c'est une diminution de ma croissance économique. Donc c'est pas bon. Puis enfin, je dirais, si vous avez fait un tout petit peu de commerce international ou vu un tout petit peu de commerce international, les économistes, ils vous disent, le commerce international, c'est bien, mais potentiellement, ça peut créer des inégalités. Et puis les gens se sont dit, ils ont fait le parallèle entre les transferts de marchandises, de biens, vous voyez, le commerce international de biens et de marchandises, et puis les mouvements de population. Et ils se disent, peut-être que les mouvements de population, ça fait du bien, mais ça peut créer des inégalités. Voilà, donc j'ai fait la liste de quasiment, dès qu'on prend un mécanisme de base, et sans forcément avec une rhétorique populiste, etc., mais un mécanisme de base en écho, à chaque fois on se dit, l'immigration ne devrait pas avoir un effet très bon. Et donc c'est pour ça que je termine en disant, est-ce que l'analyse est anti-immigration ? Moi maintenant, ce que je vais essayer de vous convaincre, de vous dire, en fait, il faut aller au-delà, il faut aller beaucoup plus loin, et lorsqu'on va plus loin, on s'aperçoit que la migration n'a pas du tout cet effet-là. Alors, et je prends l'exemple des finances publiques. Ça a été notamment beaucoup porté par l'OCDE ou des personnes comme ça. L'idée était assez simple. Je vais voir des enquêtes, sur les enquêtes sur les ménages, et je regarde dans les enquêtes combien, à chaque âge, une personne reçoit de la part de l'État et combien il paye. D'accord ? S'il paye plus que ce qu'il reçoit, il est contributeur net aux finances publiques, et s'il gagne moins s'il perçoit moins que il est dans les deux cas contributeur, mais il peut être bénéficiaire net s'il reçoit plus que ce qu'il contribue. D'accord ? Donc ça, a priori, on se dit que c'est très simple. Et puis, on peut faire ça pour les natifs et pour les étrangers et voir quel est l'effet potentiel sur l'économie. Ce qui est assez étonnant lorsqu'on a fait ces études, et l'OCDE l'a fait, ça a été fait énormément en France, etc., c'est qu'on n'a pas trouvé d'effet très négatif sur la migration. On a trouvé des effets qui étaient assez faibles. Alors évidemment, il y a certains âges, typiquement, comme en moyenne, les salaires des immigrés sont plus faibles que ceux des Français. Leurs contributions, les taxes qu'ils payent sont plutôt plus faibles. Et puis comme ils ont des probabilités d'être plus souvent au RSA, comme ils ont des probabilités d'être plus souvent au chômage, ils touchent un petit peu plus de bénéfices. Donc vous voyez, il y a des tranches d'âge où finalement ils coûtent plus potentiellement que ceux qui sont nés sur place. Mais la grosse différence, c'est que ce qui fait presque la définition d'un immigré, c'est qu'il arrive à 20 ans. D'accord ? Il arrive à 20 ans dans le pays, il a quasiment rien coûté pendant les 20 premières années de sa vie au pays. Et ça, c'est un bénéfice qui est absolument énorme. D'accord? Donc même si sa contribution est un petit peu moins avant, comme il n'a rien coûté au moment où justement les populations coûtent très cher, cet effet démographique a un impact extrêmement fort. Après, moi j'ai eu une approche un petit peu critique en fait de ces façons de voir. Hein, et là, l'approche la plus la critique la plus forte que je peux faire de ces études, c'est qu'elles ne couvrent aucune notion d'économie. Elles ne sont que purement comptables. Donc, elles font comme si, en fait, la science économique, depuis 200 ans, n'avait rien dit, n'avait rien fait. Elles ne prennent pas en compte les interactions entre les personnes. Or, il y a des interactions. D'accord ? Et je vais vous donner deux cas typiques, hein, qui sont très étudiés par les économistes, hein, qui sont les effets de complémentarité ou les effets d'externalité. L'effet de complémentarité, c'est que vous prenez typiquement un restaurant. D'accord ? Vous avez beaucoup de restaurants où la personne qui sert, qui reçoit la clientèle, est née dans le pays, et puis celui qui est en cuisine, qui fait tout le boulot, les deux bossent, mais celui qui est en cuisine et qu'on ne voit pas, hein, est un immigré. S'il n'y a pas d'immigré, celui qui est devant, il ne peut pas servir. D'accord ? Il n'y a pas de boulot. Le fait qu'il y ait un immigré, hein, fait que celui qui est au contact de la clientèle a du travail. C'est un effet de complémentarité. D'accord ? Si vous avez... on ne peut pas voir l'impact économique qu'en regardant le salaire de la personne qui est en cuisine. Il faut aussi voir l'impact son impact sur le salaire de celui qui sert à la table. Il y a un autre phénomène qui est très puissant, qui est celui des externalités. On a vu, on a observé empiriquement, hein, de façon très forte, que la population étrangère était plus importante dans certaines villes, notamment des villes américaines, après ça a été répliqué ailleurs, mais au départ c'était sur une étude américaine, plus la population étrangère, notamment mexicaine, etc., était forte dans une ville, plus les femmes américaines travaillaient. Parce que tout simplement, elles avaient des possibilités, des plus grandes possibilités pour faire garder leurs enfants, et donc ça leur permettait de travailler plus. Ça, c'est typiquement une externalité. Il ne faut pas regarder juste le salaire de la nounou, il faut regarder le salaire supplémentaire que la femme qui a pu faire garder ses enfants a obtenu. Et c'est comme ça qu'on récupère une externalité. À partir de là, on développe, ou les économistes développent, des méthodes qui sont beaucoup plus sophistiquées pour essayer d'évaluer justement l'effet économique de la migration. Alors, la façon de faire, alors, vous n'avez peut-être pas vu le modèle solo, mais vous avez fait des maths, donc c'est d'estimer des modèles. Très simple. Vous prenez une équation de récurrence, d'accord ? Vous prenez un système d'équation de récurrence, et vous voulez que ce système d'équation de récurrence représente votre économie. C'est-à-dire, représente comment est-ce que votre économie évolue au cours du temps. D'accord. Vous introduisez des termes stochastiques dans votre système d'équation de récurrence, et ça, ce sont vos chocs. Et vous allez choquer votre modèle pour essayer d'évaluer l'effet de l'immigration sur la dynamique du modèle. C'est exactement comme ça qu'on évalue l'effet, par exemple, d'un choc de finances publiques sur le PIB. C'est comme ça qu'on évalue l'effet d'une modification de la politique monétaire sur le PIB. Ce sont les multiplicateurs keynésiens. D'accord ? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris ce système totalement standard et qu'on l'a mis, en fait, on l'a adapté pour la migration. Lorsqu'on fait ça, on s'aperçoit que les effets de la migration sont extrêmement positifs, sont extrêmement forts. Et pas simplement pour les superstars, pas simplement pour les plus qualifiés, mais je dirais que toute migration a des effets extrêmement positifs. C'est-à-dire, ça veut dire que les effets démographiques sont très forts, les effets de complémentarité, les effets d'externalité sont extrêmement forts, extrêmement profitables aux pays d'accueil. Et on le fait, Pour quasiment tous les pays, on les a reproduits, ça marchait. Nous, on nous a dit non, non, mais ça c'est faux, on va prouver que c'est pas vrai. Il n'y a jamais eu, on a publié ça depuis maintenant une dizaine d'années, il n'y a jamais eu une étude qui nous a montré le contraire. On l'a fait en décomposant même par type de migration. Vous savez que la migration est très diverse. Une grosse partie de la migration en France est familiale. Bon, on a pris la migration familiale. Est-ce que ça a un impact positif ou pas? Ça a un impact positif. On a pris juste les femmes, parce que je crois que les gens ont des clichés comme quoi les femmes travaillent pas. Et du coup, ben, on a pris que les femmes migrantes, il y a eu un impact positif. On a pris les femmes africaines pour tomber en plus encore dans le cliché. Il y avait un effet positif. On a ça tout le temps et on a ça pour quasiment tous les pays. D'accord? Les effets économiques ne se résument pas à des effets comptables. Il faut prendre en compte les différentes interactions entre les agents. À partir de là, quelle prescription on peut faire? D'accord? Comment est-ce qu'on réintervient dans le débat public lorsqu'on a fait tout ce cheminement de comprendre les raisonnements économiques de base et puis d'essayer de monter des analyses statistiques poussées qui vous donnent des éléments? Alors, premièrement, première question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on doit être prescriptif? Alors, on l'est toujours, hein, quand on est un chercheur, quand on est un scientifique, quand on est un économiste, on nous demande tout le temps de faire des prescriptions. Mais il faut pas être naïf. Hein, il faut pas, c'est pas parce que quelque chose est bon pour l'économie que ça doit emporter la décision politique. La décision politique, elle dépend d'un faisceau, en fait, d'indicateurs, dont l'indicateur économique. Voilà. En plus, on ne décide pas une politique migratoire simplement parce que ça nous enrichit. Néanmoins, ces analyses économiques, ces effets extrêmement positifs que l'on trouve sur la migration peuvent nous aider à déminer le débat. C'est-à-dire, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de risque en fait économique avec la migration. Donc vous pouvez éventuellement reporter votre attention, votre intérêt, votre focus sur des sujets qui sont potentiellement plus importants, plus déterminants pour la vie de la cité, hein, comme l'extrême concentration des populations immigrées sur certaines zones, hein, qui est assez complexe, qui est à la fois qui est repoussoir et puis qui est en vie, hein, forcément lorsque vous migrez, surtout pour ceux qui les réfugiés, il y a une volonté de retrouver sa communauté, etc. C'est très complexe, très difficile. Ou la répartition, justement, des demandeurs d'asile au sein de l'Union européenne. D'accord ? On applique, en fait, des règlements internationaux qui veulent que, finalement, c'est le premier pays dans lequel le réfugié est arrivé qui doit l'accueillir. Bon, il n'y a qu'à voir la physionomie des pays européens. Forcément, du coup, c'est certains pays qui devraient supporter tout le coût, finalement, de l'accueil des personnes réfugiées. Et ça, ça n'a pas de sens. Donc, comment est-ce qu'on réfléchit à ces choses-là? Et puis, plus généralement, et plus pour avoir vraiment aussi être rentré dans ces questions de la décision politique associée à l'immigration, il y a une espèce de mythe dans le monde politique et peut-être aussi dans la population qui veut que l'immigration, en fait, si on le voulait, on pourrait choisir. On pourrait avoir exactement la quantité d'immigrés que l'on souhaiterait. Et puis même, idéalement, on pourrait les choisir. On pourrait avoir juste ceux qui sont bons ou ceux qui sont pas bons. C'est pas du tout comme ça que ça marche. D'accord ? Hein, la France fait partie d'une zone de libre circulation, hein, qui est l'Union européenne, dans laquelle il y a une totale liberté de mouvement, y compris en incluant des pays qui sont relativement pauvres par rapport à la France. Il n'y a pas de transfert massif. On reçoit assez peu de gens, en fait. Même. La question, ce serait plutôt comment est-ce qu'on peut faire pour faire venir plus. D'accord ? Il n'y a pas d'appel d'air. Et puis sur le reste de la migration, c'est-à-dire les personnes qui viennent de pays extérieurs à l'Union européenne, on est sur des flux qui sont extrêmement faible, mais il ne faut pas se le nier. Une fois qu'on a enlevé, je dirais, les flux presque obligatoires, hein, si vous prenez la migration vers la France, la moitié, c'est au titre de la famille. Et au sein de cette famille, la moitié, c'est des Français qui font venir leur famille, leur époux, leurs enfants, etc. D'accord. Donc, c'est un droit universel que de vivre en famille. Donc, on a assez peu de portée là-dessus. Hein, les réfugiés, ce sont aussi des conventions internationales. Je vous ai mis les chiffres là de l'immigration de travail. On parle, ça a un petit peu augmenté sur les dernières années, mais on parle de 20 000 personnes, 30 000 personnes. Vous voyez, une cohorte de jeunes qui sort du bac, aujourd'hui c'est 750 000 personnes. Donc on est vraiment sur des tout petits flux. Comment est-ce qu'on parle de migration? Je vais en finir avec ça. Alors déjà, il faut en parler. Alors, je pense que c'est hyper important. Il faut les dédramatiser. Beaucoup de sujets qui sont associés aux questions de population sont systématiquement présentés dans un contexte un peu dramatique. Hein, explosion de la population, bien chute des naissances. On n'arrive jamais à parler de population de façon simple, détendue, etc. Il faut forcément utiliser des superlatifs. Il faut revenir aux faits, c'est très important. Et là, les économistes peuvent vous aider. Et puis, il faut essayer de construire un récit et construire un récit différent. Jusqu'à présent, c'est un échec. Et voilà, on compte sur vous, sur la nouvelle génération, pour aussi porter un discours un peu différent et utile. Je vous remercie.
Merci beaucoup. J'avais une question, parce que certes, les effets économiques à long terme d'un choc démographique sont positifs, mais où on place le long terme? Parce que vous avez cité tout à l'heure les dates de 62 et 80, et donc on sait par exemple avec l'épisode de Marielle et les Cubains qui sont arrivés en Floride, on a eu des conséquences négatives économiques à court terme. Et donc, demain, comment on explique aux populations que ces effets négatifs ne sont qu'à court terme et qu'elles verront les effets positifs plus tard, et où placer le long terme?
Alors, donc merci pour la question. lorsque moi j'ai travaillé là-dessus, j'ai publié là-dessus, j'ai montré que les effets positifs étaient en fait à court terme. Et ça fait réellement partie en fait du narratif, et notamment de ceux qui connaissent le modèle de Solow, de dire qu'en fait les effets les positifs sont qu'à long terme. Moi je crois, j'ai prouvé, ou en tout cas j'ai produit des études qui peuvent être répliquées, contestées, etc., qui disent ben non, en fait très vite vous avez des effets positifs. Et même pour la composante la plus, je dirais, la plus sensible, hein, qui serait les demandeurs d'asile. Vous voyez, une personne qui est demandeur d'asile, le temps que sa demande est instruite, cette personne n'a pas le droit de travailler. Donc, contribution pour l'économie, on ne peut pas attendre de contribution. On a montré qu'il n'y avait pas d'effet négatif. Donc, en fait, ces fameux effets négatifs, on ne les trouve pas. Et moi, je pense que c'était une erreur, en fait, justement, des précédents narratifs, que de dire, oui, non, mais à court terme, ça ne va pas, mais en fait, après, ça ira. Parce que ce n'est pas ce qu'on voit. Juste un élément. Pensez, vous avez sûrement travaillé sur les crises économiques. L'histoire est importante. On a des souvenirs de crises économiques. On en a plein. Alors pourquoi? Il y a une crise pétrolière, par exemple, il y a un choc pétrolier. Il y a des banquiers qui font n'importe quoi, et donc ils mettent tout le monde dans la crise. Il y a une crise sanitaire. On a des tas d'exemples de crises économiques. On a eu ce qu'on a appelé des crises migratoires, mais on n'a jamais de crise économique migratoire. Ça n'existe pas. On n'a pas d'exemple.
Moi, j'avais juste une question, parce que vous avez parlé du fait qu'on ne peut pas parler de démographie sans un peu dramatiser le sujet. À votre avis, à quoi est-ce qu'on doit un peu cette sensationnalisation du débat migratoire? Merci.
Alors, oui, on ne peut pas parler de démographie. Alors, j'aime bien, merci à votre question, j'aime bien qu'on dise démographie. Rien que le mot population lui-même, il est connoté. On le retrouve dans l'histoire des idées. Hein, c'est une discussion entre Hume et Montesquieu. Si vous relisez Montesquieu, il y a des tas de chapitres sur la population. Montesquieu pense qu'il y a une baisse du nombre des hommes depuis les Romains. C'est comme ça, il regardait ça. Voilà. Et c'était à dépopulation. Il emploie le mot dépopulation et populatio, ça vient de populari, en fait, c'est le désastre. Et dépopulari, c'est un renforcement du désastre. Donc même l'étymologie, en fait, du mot est déjà dramatique. Je ne sais pas forcément, je ne sais pas pourquoi on hystérise tout ça. Je m'aperçois que systématiquement, dès qu'il y a une variable démographique, c'est perçu comme étant un énorme problème. Donc dans les années 60, c'était l'explosion de la population. Il y avait trop de naissances. C'est population bomb. Maintenant, bon, voilà, il y a moins de naissances, donc il n'y a pas assez de naissances. Donc, c'est jamais content, en fait. Quoi. Je veux dire, soit trop, soit pas assez. Et sur l'immigration, ben, je dirais que c'est un petit peu pareil. Quoi. Les pays qui reçoivent des immigrés, ils trouvent qu'il y a trop d'immigrés. Mais ceux qui voient leurs jeunes partir, ils sont aussi dans une situation absolument dramatique. Quoi. Ils se disent, mais c'est la catastrophe, quoi. Tous nos jeunes partent. Quand, juste après la crise grecque, la crise de la dette grecque, tous les jeunes grecs allaient trouver du travail en Allemagne, etc., c'était perçu comme une catastrophe. Donc voilà, c'est tout le temps hystérisé. Cette hystérisation, dans le cadre de la migration, a des impacts sur les populations concernées. Hein, le fait de ne pas pouvoir en parler de façon détendue, objective, en présentant les faits, en présentant les effets, ben ça a un impact aussi sur la vie des gens, sur la conscience qu'ils peuvent avoir. Ça a un impact, j'en ai pas parlé, sur la discrimination, hein, qui est absolument considérable aussi, dans tous les domaines, sur le marché du travail, marché du logement, etc., etc. Ces discours sont importants. Et pardon, je ne vous donne pas du coup vraiment de réponse, je ne fais qu'abonder dans votre sens.
Bonjour.
Bonjour.
Je voulais vous poser une question, bien qu'à la fin, vous avez dit qu'on ne pouvait pas ajuster l'immigration comme bon nous semblait, et qu'on ne pouvait pas ajuster le flux de migration, enfin, c'était trop difficile. Parce qu'on sait que c'est ce sur quoi se base actuellement la rhétorique des partis extrêmes, est-ce que vous avez pu voir dans vos études qu'il y avait effectivement un seuil de migration, parce qu'en ce moment on parle de submersion migratoire, où il y avait un seuil où l'immigration avait, où le côté positif de l'immigration s'annulait. Est-ce qu'il y a un seuil à partir duquel le côté positif s'annule? Merci.
Ça c'est assez compliqué à montrer statistiquement, ces effets qui sont dits non linéaires. On n'en a pas trouvé, c'est-à-dire que sur les flux, par exemple, qui ont été enregistrés en Europe depuis 30 ans, les effets sont plutôt positifs, si je vais dans votre sens, irait à dire que ils sont peut-être en dessous d'un certain seuil et qu'il peut y avoir potentiellement un seuil qui est déstabilisatoire. Je pense, alors ça n'a pas été étudié scientifiquement, mais on peut penser par exemple au Liban qui au moment de la crise en Syrie a eu sa population qui a augmenté 50%. D'accord, ou la Jordanie, qui a une population qui augmente de 70%, 75% avec des réfugiés syriens qui fuient à la guerre chez eux. Là, c'est des chocs de population qui sont considérables. D'accord. Et ça pourrait être étudiant et intéressant de voir si en effet les effets déstabilisatoires, les effets que vous souleviez, monsieur, tout à l'heure, peut-être à court terme peuvent être négatifs. Avant de redevenir positif. À ma connaissance, ça n'a pas été regardé, les chocs massifs. Dans le cas de, je ne sais plus qui citait, 62, 62, c'est les rapatriements c'est les rapatriés d'Algérie, où c'est un vrai choc. Hein, je veux dire, les gens, ils ne s'y attendaient pas, et puis d'un coup, ils arrivent tous dans la partie méridionale, en PACA, quoi, typiquement. C'est 900 000 personnes. Quoi, c'est un choc absolument considérable. Dans le cadre et les effets sur les salaires et des courts termes, hein, dès la première année, etc., on ne voit pas d'effet négatif sur les salaires alors qu'il y a 900 000 personnes qui débarquent en France. Donc voilà.
Merci. Merci pour les questions. Merci pour d'être là ce soir. Et un grand merci, Bolit, pour la conférence.